le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans le service protestant ce dimanche matin sur France Culture. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de septembre et c'est le jour de l'Assemblée du désert à Mialé, un culte que nous retransmettons chaque année. Je vous donne d'ores et déjà donc rendez-vous à partir de 11h sur France Culture pour suivre ce culte en direct. Mais pour l'heure, nous recevons Cathy Badi, pasteur de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France, en région parisienne. Elle nous propose une méditation sur quelques versets de la Bible qui ont fortement modifié la conception de Luther sur ce que doit être la vie chrétienne.
Bienvenue à chacune et à chacun. Comme vous venez de l'entendre, vous pourrez écouter ce matin la retransmission en direct du culte de l'Assemblée du désert à Mialé. Cette année, le rassemblement aura une perspective historique particulière, comme il se doit en 2017. 2017 qui marque les 500 ans depuis l'affichage, par le moine Luther, de ses 95 thèses, acte fondateur pour la réforme protestante. En lien avec le thème de la réforme, j'ai choisi pour cette émission, parmi les textes bibliques du jour, celui des deux premiers versets du chapitre 12 de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. En effet, l'ensemble de la lettre de Paul aux Romains a joué un rôle important dans la formulation des principes chers aux réformateurs. Pour Luther, de son propre aveu, c'était la méditation d'un texte de la lettre aux Romains qui a complètement transformé son appréhension de Dieu et de la justice de Dieu. À l'époque de Luther, la crainte de la mort et de l'enfer après la mort était omniprésente. Penser devoir satisfaire les exigences de la justice de Dieu pour éviter l'enfer était quelque chose d'écrasant et d'angoissant pour les gens. Découvrir que le salut et le paradis ne dépendait pas de ses bonnes actions, mais de la foi en Jésus-Christ, était un immense soulagement et une bonne nouvelle. Voici ce que dit Luther sur sa lecture de la lettre aux Romains. « Je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci. Par l'Évangile est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vit de la foi ». Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entré par les portes grandes ouvertes dans le paradis même. Cette lettre de Paul aux Romains date des années 50 du 1er siècle et c'est la lettre de l'apôtre Paul la plus complète et systématique de toutes. Elle résume sa compréhension du sens de la venue de Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant que cet écrit du Nouveau Testament soit devenu une référence pour les réformateurs du XVIe siècle, eux qui voulaient revenir aux fondements, aux Écritures, pour formuler la foi chrétienne pour leur époque. Mais la réforme n'a pas seulement refondé la théologie en revenant aux Écritures, elle a aussi fondamentalement repensé la vie chrétienne. La réforme a bouleversé le rapport du croyant au travail, à l'éducation, à la famille, à l'Église et aux autorités civiles. Et le texte de Romains 12, que nous allons lire dans quelques instants, a joué un rôle clé dans cette redéfinition de ce qui constitue la vie chrétienne. Vous qui écoutez ce matin, que ce soit de manière attentive ou en vaquant à vos affaires, comment la foi chrétienne change-t-elle concrètement la vie de tous les jours? Ou tout simplement, quels principes doivent guider la vie? Voilà des questions qui peuvent se poser à chacun. Que ce temps de réflexion autour d'un texte biblique puisse vous aider, vous qui écoutez dans votre salon, votre cuisine ou dans votre voiture, à entendre un message personnel. Voici donc le fameux texte des deux premiers versets du chapitre 12 de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains qui a tant influencé la conception de Luther de la vie chrétienne. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Vous qui écoutez derrière votre poste, comment entendez-vous ces paroles de l'apôtre Paul? Pour moi, ce sont des mots imagés et chargés de sens qui s'entrechoquent. Certains d'entre vous les entendront comme une détonation. D'autres en seront éblouis, comme devant l'éclat d'un feu d'artifice. Et d'autres n'entendront rien de particulier. Par exemple, il se peut que la phrase « offrir votre corps comme un sacrifice vivant », je cite, que cette phrase vous inquiète ou vous dérange. Mais d'autres y entendront des paroles libératrices qui font sauter la séparation entre le sacré et le profane, entre le culte de dimanche et la vie de tous les jours, et qui promettent une relation avec Dieu unifiée, où le corps et l'esprit, le spirituel et le concret, l'individu et la communauté se retrouvent. Il est évident qu'en parlant d'offrir son corps en sacrifice, que l'apôtre Paul n'avait pas en tête l'horreur du terroriste qui se fait exploser au nom de Dieu, répandant la mort et la haine dans son sillage. Soyez rassurés, jamais l'apôtre Paul n'aurait envisagé une telle interprétation. Non. Quand il dit comme un sacrifice vivant, il veut inciter le chrétien à se destiner à la vie pour incarner l'amour. Et l'apôtre Paul n'avait pas non plus en tête les excès d'ascèse de l'Église médiévale, où souffrance, sacrifice et retrait du monde rimaient avec sainteté. Tout au contraire, l'apôtre Paul ne parle pas d'un sacrifice cultuel, localisé et ritualisé, mais il parle du principe d'une vie de tous les jours, une vie bonne, une vie saine, une vie agréable, vécue dans la communauté chrétienne et dans la société humaine. Pour bien lire et bien entendre ces paroles qui ont traversé les siècles jusqu'à nous et jusqu'à chez vous ce matin, il est important de ne pas les faire résonner trop vite avec le nuage de mots-clés de notre temps. Le vocabulaire et les références culturelles de l'apôtre Paul et de ses premiers lecteurs sont à la fois bibliques, chrétiens et gréco-romains. Voyons pourquoi. ils sont d'abord bibliques, parce que la notion de sacrifice saint et agréé de Dieu saute des pages de l'Ancien Testament. Mais rappelons qu'au moment où Paul écrit, ce système d'offrande et de sacrifice d'animaux a déjà été remplacé par une toute autre relation à Dieu. Ensuite, le vocabulaire et les références du texte de Romains 12 sont chrétiens, tout simplement parce que ces paroles se trouvent au cœur du résumé de l'apôtre Paul, de sa compréhension du message de l'évangile de Jésus-Christ, et il s'adresse à une communauté chrétienne. Et enfin, les références de notre texte sont gréco-romaines, parce que derrière le vocabulaire culte conforme à la parole se trouve la philosophie grecque des stoïciens, qui avaient droit de citer à Rome. Les stoïciens cherchaient eux aussi « la vie bonne », entre guillemets, la vie bonne dans le respect de Dieu, au-delà des sacrifices rituels qui étaient courants également dans les religions grecques et romaines. Mais la référence principale, accessible à tous aujourd'hui, sans chercher d'informations supplémentaires, est la lettre aux Romains elle-même. Avec ces deux versets que nous avons lus voici quelques instants et qui ont marqué Luther et les autres réformateurs, on arrive à un moment charnière de l'exposé de Paul. Ce sont des phrases denses parce qu'elles résument le contenu des 11 chapitres précédents de la lettre aux Romains. Avec ces versets, Paul prend un virage important vers la description, selon lui, de la vie chrétienne concrète. Ils servent d'introduction aux 4 chapitres qui vont suivre et terminer la lettre. Et, en toute logique, c'est en lisant de manière suivie cette lettre de Paul, dans laquelle il expose aux Romains sa compréhension de l'Évangile, que l'on arrive le mieux à cerner le sens de cette présentation en miniature de la vie chrétienne. Je prends un exemple. Dans le premier chapitre de la lettre aux Romains, Paul évoquait le refus des êtres humains à discerner la présence de Dieu dans et par le monde naturel. Le résultat, selon lui, était que les humains, et je cite Paul, se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ou encore, un peu plus loin, et je cite Paul encore, ils déshonorent leur propre corps. Maintenant, voyez-vous, pour répondre à ce qu'il a dit au début de sa lettre, Paul, dans ce chapitre 12, invite le chrétien à offrir à Dieu ce corps qui, nous venons de l'entendre, était autrefois déshonoré, et à être transfiguré par le renouvellement de l'intelligence, intelligence qui était selon Paul autrefois obscurcie, afin de discerner la volonté de Dieu, autrefois délibérément ignorée. Et ce que moi j'entends, dans ce renversement de situation selon Paul, et que la vie humaine, remise avec confiance entre les mains de Dieu par la foi en Jésus-Christ, peut être métamorphosée, c'est le mot grec utilisé, autrement dit transfigurée, restaurée, réorientée, corps, esprit et intelligence. Et les réformateurs du XVIe siècle ont bien compris qu'un vrai culte offert à Dieu n'était pas un acte rituel limité dans le temps et dans l'espace, mais tout simplement la vie humaine vécue devant Dieu. Alors, il est vrai que parfois les réformateurs lisaient la lettre aux Romains à travers le filtre de leur propre combat avec l'Église médiévale, selon eux ritualisée et cléricale. Mais ce qu'ils ont découvert reste interpellant pour nous. Aujourd'hui, on entendra peut-être l'appel à offrir toute sa vie à Dieu, moins dans le sens de l'émancipation des exigences de la religion, que dans le sens de la sincérité et de la cohérence de la vie du croyant. mais l'idée que le culte, c'est la vie, et non pas un rite, reste une idée forte. Touchés par les réformes protestantes du XVIe siècle, ont compris que la réponse humaine adaptée au message de Jésus-Christ n'était pas l'accomplissement angoissé de certains actes religieux définis par l'Église, mais le don de l'ensemble de sa vie à Dieu, dans un esprit de gratitude, dans un élan de reconnaissance à Dieu. Travail manuel ou agricole, relations conjugales et familiales, coopération entre voisins, apprentissage de la lecture à l'école et à la maison pour que chacun puisse lire la Bible, devenir conseiller presbytéral pour gérer les affaires de l'Église, tous les aspects de la vie ordinaire de l'époque devenaient des champs de service à Dieu, vécus selon le principe de l'amour du prochain, comme la Bible l'enseigne. Pour les premiers protestants, c'était donc cet esprit de service à Dieu dans tous les domaines de la vie, qui était, et je cite le texte de Romains 12, le culte conforme à la parole. Qu'en est-il aujourd'hui? Que pourrait être ce culte conforme à la parole que décrit l'apôtre Paul? En fait, le mot grec de l'originel est logikos, le culte logique, si vous voulez. D'autres traductions du même texte préfèrent traduire culte spirituel ou culte raisonnable. Qu'est-ce qui aujourd'hui rassemble tous les fils de ma vie et de ma personne pour les présenter à Dieu? Quel serait mon culte logique, spirituel, raisonnable, conforme à la parole? Relevons l'insistance du texte de Romains 12 sur une intelligence renouvelée. Je vous rappelle verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Il y a eu des époques où la foi chrétienne a été sans doute trop intellectuelle, d'autres où elle s'est opposée à la raison et a dérivé vers l'illumination. Mais ce que ce texte évoque pour moi est une intelligence à la fois réfléchie et spirituelle. Et je me suis alors posé la question. Comment intégrer à ma vie de tous les jours une intelligence spirituelle? On dit de notre société qu'elle est marquée par la post-vérité, par l'hyper-affectivité, le zapping. Si souvent je me trouve polluée par des émotions qui n'ont rien à voir avec ma vie réelle, je me sens happée par une surenchère d'informations qui ne sont pas déterminantes pour mes activités, pour mes relations. Comment réagir en tant que chrétien dans ce contexte? Comment nourrir une intelligence réfléchie? Comment coopérer avec l'Esprit de Dieu qui habite en moi pour vivre une vie chrétienne cohérente? Ce serait peut-être de me mobiliser dans une réflexion informée par les Écritures. Ou bien de m'engager de façon consciente et volontaire dans mon service de Dieu. Ce serait peut-être de vivre ma vie devant Dieu dans un esprit de gratitude, sans me laisser modeler, comme le dit Paul, dans mes choix et mon style de vie, par le monde, en l'occurrence par les médias omniprésents. M'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, pour reprendre le vocabulaire de Paul, ne serait-il pas de faire l'effort de résister au reflux de réactions instantanées et fluctuantes partagées sur les réseaux sociaux? De donner du temps et de l'espace à Dieu et à sa parole pour me former et pour forger mes opinions et mes actions. Ne serait-il pas de m'engager dans l'exigeant discernement spirituel de ce qui est vraiment bon et agréé de Dieu pour utiliser encore une fois le vocabulaire du texte de Paul. Et quel défi ! Discerner ce qui est vraiment bon et agréé de Dieu dans une société où les options de vie se multiplient et se complexifient. Dans la suite de ce chapitre 12 de la lettre aux Romains, les premières applications concrètes de ces deux versets sont relationnelles. Savoir prendre avec humilité et enthousiasme sa place dans la communauté chrétienne et savoir vivre avec ses voisins dans la proximité et la paix. Encore une fois, ce que Paul encourage chez les chrétiens de Rome au premier siècle, quand il leur dit d'offrir leur corps en sacrifice vivant, ne pourrait-il pas se vivre aujourd'hui dans cette résistance aux valeurs virales, dans cet effort de donner de la place à Dieu et à sa parole dans une vie trop souvent chargée en distractions, dans la recherche d'une vie simple et dans des relations saines et solidaires, et dans cette réflexion, dans ce discernement du bien. N'est-ce pas cela la vraie louange à Dieu et le sens du culte chrétien? Je vous laisse avec cette question. Pour Luther et les réformateurs, les deux versets de la lettre de Paul aux Romains que nous avons médités ont révolutionné le rapport du croyant à la vie de tous les jours. Quel impact aurait-il sur ma vie, sur votre vie? J'ai envie de vous inviter maintenant, si vous le souhaitez, à vous associer à cette belle prière de Claude Coberthaud de la Fraternité des Veilleurs. Nous prions, mon Seigneur et mon Dieu, merci de te révéler par ta présence aimante et ta puissance vivifiante. Toujours tu me surprends et tu me rejoins là où je ne t'attendais plus. Tu me relèves de mon endormissement. Tu me mets en route dans un émerveillement inespéré et tu m'animes d'un dynamisme prometteur. Mon Seigneur et mon Dieu, pardon pour ma lenteur à croire et à comprendre ce qui est annoncé dans les Écritures. Pardon pour mon regard limité au terrestre et pour ma fermeture à l'inattendu de ta personne. Apprends-moi à te reconnaître dans la réalité quotidienne où se mêlent peine et joie, doute et espérance, mort et résurrection. Dispose mon cœur à ta nouveauté créatrice et qu'ainsi, vivifié par ta parole, libéré de mes inquiétudes, hors de mes fausses assurances, je puisse dans ta grâce, ton amour et ta paix travailler à l'instauration de ton royaume. Amen. Et pour clore cette émission, permettez-moi de vous souhaiter du bien, à vous qui écoutez et à ceux que vous aimez, par cette parole biblique. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, garde vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant avec Cathy Badi, pasteur de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France en région parisienne. Merci à Viviane Noël et à Julien Douminc pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez la réécoute ou le téléchargement du texte de cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et si vous désirez recevoir ce texte par courrier, écrivez au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Je vous retrouve tout de suite pour Culture protestante.
Thank you.